Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'entretien par les temps qui courent. Tous les soirs, une conversation avec un ou une artiste. Et ce soir, c'est avec Céline Huyck-Baert.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du pota pépété pépé.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent,
Marie Richeu avec Céline Huyck-Baert.
Nous sommes les bons et les mauvais acteurs du théâtre de nos existences. Une fois levé le voile sur cette comédie-là, il reste la possibilité d'en écrire d'autres. D'autres théâtres, d'autres dialogues, d'autres fictions pour nos rencontres, nos enfances, les moments qui ont eu lieu et les cartes postales qui n'ont peut-être pas été envoyées. Possibilité à laquelle s'ajoute la liberté infinie de les réécrire, de revenir dessus, de les corriger, bref, de monter autrement le film. Céline Huyck-Baert, vous écrivez l'histoire d'un père qui meurt avant que sa fille n'atterrisse de son vol montréalais pour le saluer une dernière fois. Ses cendres, comme ses biens, ont été jetées en hâte, et de ce trop vite parti naît une béance dans laquelle s'engouffrent plusieurs de ses gestes destinés à accuser le coup de la perte. Des questionnaires, des listes, des photos, des appels téléphoniques, des trajets, des récits de rêves refont vivre un homme qui commençait peut-être d'être mort de son vivant. Le drap blanc, c'est le titre de votre livre, paru aux éditions Le Quartanier. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Celles et ceux qui nous écoutent l'auront compris. C'est un objet aux matériaux divers, où il y a des facsimilés de passeports, où il y a des copies de photographies, où il y a des listes, où il y a des espèces de reproductions de carnets. Et pour parler de cette hybridité, je voudrais qu'on commence par une archive de Grégoire Bouillet qui parle de son livre Le Dossier M.
Si vous commencez en vous disant que vous allez écrire un roman, en fait, le fait d'écrire un roman vous assigne un lieu d'écriture. À partir du moment où vous dites que, bah, en fait, je sais pas ce que ça va être, et ce sera ce que ça sera à la fin, et ce que ça sera au moment, dans le temps même de l'écriture, parce que ça va inventer sa propre forme en direct, et à un moment donné, la forme, c'est devenu un dossier. Et donc, j'ai commencé à penser que je versais des pièces au dossier, et c'est devenu un élément narratif. C'est-à-dire que, bah, du coup, ah bah là, j'ai versé une autre pièce au dossier. Et donc, c'est le mot dossier qui m'a assigné un lieu d'écriture. Si j'avais écrit un roman, je n'aurais jamais versé de pièce au dossier. C'est dans ce sens-là que, en fait, la définition littéraire que l'on pose avant même d'écrire assigne à un lieu d'écriture. Et moi, je voulais pas être assigné, je voulais être assigné nulle part. Je voulais être libre, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais gagner en tous les cas le maximum de degrés de liberté, que ce soit en termes de propos, en termes de positionnement du livre, en termes de moi à l'intérieur du livre, en termes de format aussi, évidemment. Et voilà, parce que cette histoire m'a vraiment excédé, et elle était importante et elle m'a excédé. Donc aucun cadre n'allait a priori, même si à la fin, ça en définit dans les contours. Et moi-même, incapable de dire à ce moment-là, mais c'est quoi, si ce n'est, c'est un dossier.
Le dossier pour contenir une histoire qui l'excédait, elle est géniale cette conversation, c'est Grégoire Bouillet qui était au micro de Romain de Bec-de-Lièvre dans l'émission Par les temps qui courent. Alors peut-être pour voir avec vous si vous avez très rapidement défait une assignation qui aurait été celle du roman pour en trouver d'autres, un lieu d'écriture, comme dit Grégoire Bouillet.
C'est intéressant, effectivement, comme archive, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit, parce que je pense que la genèse de ce livre est partie d'un désir de peut-être briser la forme, faire trembler la parole, si je reprends les mots de Foucault, quand il parle de son désir de déconstruire une norme discursive. Moi, effectivement, le point de départ de ce livre, ça a été peut-être d'oser parler de quelque chose d'extrêmement personnel et pourtant de très banal, de très commun, mais aussi de m'autoriser à écrire ce livre-là dans une forme que je connaissais pas encore explorer l'écriture sous peut-être sous la forme d'une d'un territoire plutôt que d'une trajectoire où on sait déjà, on a peut-être tendu une flèche vers l'autre rive, puis on sait où est-ce qu'on se rend. Moi, j'étais pas du tout là, j'étais dans un besoin d'exploration et d'accumulation de matériaux jusqu'à ce que au fur et à mesure de l'écriture, je comprenne ce que j'étais en train de faire. Oui.
Et alors, ça a commencé par accumuler du matériau avant de se mettre à écrire ?
Les deux coïncident, mais oui, peut-être effectivement, la première démarche de ce livre-là, ça a été de rentrer en France, puisque je vis au Québec depuis 17 ans, de rentrer en France pour interroger les proches de mon père, faire des entrevues, recueillir leur témoignage, leur vision de cet homme que j'avais connu en tant que père, puis qui avait aussi un peu démissionné de la vie les dernières années. Donc, au-delà de la distance que moi j'avais instaurée entre mon père et moi, il y avait une distance qu'il avait lui-même instaurée à travers la solitude, l'alcool, la dépression. Et donc, je suis rentrée en France pour recueillir ces témoignages-là, pour écouter les autres aussi, de manière totalement innocente. Je pensais accumuler énormément de documents, retourner sur les lieux de son travail, sur ses lieux de vie, travailler comme une journaliste. Et en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas du tout intéressant. En tout cas pour ce que j'étais en train de faire, et que ce qui était intéressant, ce qui était moteur pour moi, c'était de découvrir que les blancs qu'a laissé la mort de mon père, c'était ça dont il fallait que je parle, hein, de cette disparition qui est intrinsèque à toute mort. Je pense que la mort, on a tendance à l'associer à un moment précis, une date. Alors après, on a les trois jours officiels du deuil qu'on peut prendre, puis ensuite la mort s'arrête. Mais en fait, c'est pas vrai. La mort commence bien avant la date officielle civile de la mort, et puis elle se prolonge longtemps après. Les objets, il faut les jeter, d'autres sont cassés. Les discours autour du mort se figent. La mémoire se fige aussi, et donc. Petit à petit, je me suis rendu compte que c'était de ça dont j'allais parler, de cet effacement, du peu qui reste à la fin d'une vie, surtout quand cette vie est fait partie de la petite histoire des gens qui n'ont pas participé à aucun événement qui aurait pu être archivé officiellement.
Sinon leur existence.
Sinon leur existence, oui.
Et c'est une sorte de production d'archives. Alors, d'ailleurs, le livre ne démêle jamais s'il s'agit, donne des petits indices, mais s'il s'agit d'archives qui sont fictives ou d'archives qui seraient réelles. En tout cas, ça produit une archive à propos d'une petite histoire qui serait celle de l'existence du père. On l'entendait dans la voix de Grégoire Bouillet, il y a quelque chose qui s'est passé à partir du moment où il a trouvé un cadre. Ce mot dossier est devenu un cadre, mais presque physique, on l'entend dans sa voix, quoi. C'est comme s'il avait d'un seul coup eu un carton et puis qu'il avait pu commencer, en fait, à travailler. Il y a ce livre-là, et puis il y a le reste de votre travail, Céline Huyghebaert, dans lequel le livre a déjà une place singulière, comme un cadre ou comme quoi ? Il a quoi comme place, le livre, dans ce que vous faites ?
Il est central. J'ai une pratique en art visuel où le langage et le livre sont les deux matériaux que j'utilise presque exclusivement. Le livre, il peut exister dans le cadre d'expositions ou dans ce cas-là, il va pouvoir être déployé dans un registre plus spatial. C'est une autre temporalité qui rentre en jeu quand je m'adresse à un visiteur plutôt qu'à un lecteur. De toute façon, le langage continue à être exploré, soit dans une temporalité beaucoup plus fragmentaire, rapide, soit dans un registre plus lent, autant d'écriture que de réception. une plus grande solitude aussi dans l'écriture d'un livre que dans la préparation d'une exposition.
Il est beaucoup question de ça d'ailleurs, il est beaucoup question des différentes solitudes qui existent dans votre texte. Mais il y a aussi la reproduction de documents réels et tangibles. On viendra peut-être à la manière dont vous écrivez ou réécrivez des discussions, des moments de vie, des souvenirs ou des rêves. Ces documents, vous les avez choisis comment? Ils ont quelle place? On imagine que ce n'est peut-être pas l'exhaustivité des documents que vous possédez. Alors qu'en est-il?
Ça a été un choix difficile. Le moment du montage, je considère que c'est un moment d'écriture à part entière. C'est le moment où les différents fragments commencent à tisser des relations les uns avec les autres.
Quand vous dites montage, c'est la maquette effective du livre.
Peut-être parce que j'ai une démarche qui est entre les arts visuels et la littérature. C'est sûr que je travaille dans les cafés, je travaille dans ma chambre, j'ai cette liberté que donne l'écriture d'un livre, d'être à son atelier dès qu'on a son ordinateur. Mais en même temps, j'ai aussi un rapport très, très territorial à l'écriture. Donc j'ai aussi un atelier d'artiste dans lequel il y a pas de sculpture, pas d'objet, seulement des grandes tables sur lesquelles je déploie tous les matériaux que je peux avoir, les documents, les fragments d'écriture, des citations, des témoignages. Et à partir du moment où je rentre dans le montage, c'est le moment où toutes ces choses étalées sont sans arrêt déplacées jusqu'à ce que elles trouvent leur place juste, jusqu'à ce que je sache ce que je dois exclure parce que ça ne tisse pas de relation avec le reste, même si parfois c'était les pièces que je préférais. Et c'est là où la réécriture commence aussi parce que les frictions qui sont créées entre les différents éléments amènent un autre niveau de texte, de prise de conscience que je dois explorer avec l'écriture. Le choix des documents, il y a eu un travail déjà de retranscription. Ça veut dire que entre le document à l'état brut et le moment où je l'intègre dans un livre, il y a une écriture qui se passe aussi. Et cette écriture-là, il faut qu'elle permette de garder l'aspect testimonial du document, la valeur, ce qui fait que quand on voit normalement une photocopie d'un acte de naissance, on se dit cette personne-là existe. Donc dans le livre, il n'y a pas une photocopie de l'acte de naissance, mais il y a la retranscription graphique, textuelle de cet acte de naissance. Donc ça, c'était très important de travailler là-dessus au niveau d'écriture. Puis en fait, tous les documents que j'ai gardés, c'est des documents qui ne révèlent pas la vie de mon père, le privé, le biographique, mais qui témoignent de cette absence, cet aspect un peu fantomatique. Par exemple, l'acte de naissance, j'ai écrit à la ville dans laquelle il est né, à la mairie, pour avoir son acte de naissance. Puis on m'a répondu que l'acte de naissance et de mariage de mon père n'existait pas. Donc c'était parfait, ça m'allait. Ça pouvait pas.
Vous avez raccroché en disant ça. Eh ben c'est super, très bonne nouvelle.
J'ai même reçu la lettre, donc je te mets merci. Ça va rentrer parfaitement dans mon livre. Le choix des photographies aussi, c'était important pour moi qu'on ne reconnaisse pas le visage de mon père, mais qu'on reconnaisse peut-être une époque, une vie de famille. Qui peut être un peu la vie de famille, j'ai l'impression, de beaucoup de monde. Et que ces photographies-là puissent dialoguer avec le texte pour créer une tension entre ce qui est dit et ce qui est montré, mais que rien ne soit révélé de privé, par contre.
Et encore une fois, pour qu'il y ait une autre tension, qui est celle qui existe entre peut-être vos vrais souvenirs et nos vrais souvenirs. Parce que vous disiez tout à l'heure, Céline Wickbert, qu'il était question des blancs, mais en fait, les blancs, ils agissent aussi dans l'objet livre, si bien que nous, on verse au dossier, pour reprendre les mots de Bouillet, on verse au dossier nos propres images, souvenirs, etc. Et ça renvoie à la fin du livre où presque pourquoi on ne se fabriquerait pas des images de paysages d'enfance ou des paysages d'enfance de nos aïeuls en récupérant dans une brocante des photographies d'autres aïeuls et d'autres paysages. Ça s'est ouvert comme recomposition des récits biographiques.
C'est vrai, c'est intéressant, puis c'est rassurant aussi parce que en fait, je vous avoue que c'est extrêmement effrayant. En tout cas, pour moi, ça a été extrêmement effrayant. Le moment de l'écriture de quelque chose de très personnel et de sans arrêt me poser la question de est-ce que je vais réussir à échapper au piège de rester
dans ma petite histoire.
Exactement, ouais.
Et
c'est au lecteur de le dire, mais j'ai tout fait pour.
Et vous avez dépassé cette peur-là pendant le moment de l'écriture? Ça a été quelque chose qui a pu se transformer ou qui est resté effrayant parce que on vous voit d'ailleurs dans la manière dont vous agencez ces documents, pour reprendre ce mot-là. Oui, c'est flipper qui me vient à l'esprit, mais oui, avancer quand même sur des œufs, quoi.
La peur, elle est restée très présente pendant l'écriture. Beaucoup de peurs qui trouvent des origines différentes. La peur d'écrire quelque chose de trop privé pour être pertinent. La peur de blesser ma famille, de les exposer de me demander si ce que je faisais était juste. C'est sûr que je vis au Québec, donc pendant toute l'écriture j'étais protégée. C'était une illusion, mais je me sentais protégée par l'océan Atlantique. Au moment, quelques semaines avant l'apparition du livre, ça a été effrayant au point de presque décider de renoncer au livre. J'ai failli écrire à mon éditeur en lui disant on arrête, je ne veux plus. Et finalement, j'ai passé le dernier mois à relire énormément d'autrices qui ont eu le même genre de processus, comme Annie Ernaux, qui se sont exposées non seulement elles-mêmes, mais qui ont aussi exposé les autres. Et ça m'a donné la force d'aller jusqu'au bout.
Surtout que ce texte-là commence par un refus ou l'exposition d'un refus. C'est un prélude, c'est une conversation avec Jeanne. Et vous appelez cette femme et vous lui demandez si c'est possible de se voir pour avoir des récits de la vie qui précède votre naissance. Et c'est un non. Et c'est vraiment une succession de noms et de portes qui se referment. Je vous avoue que moi, la première fois que je l'ai lu, avant que je trouve ça dramatique, j'ai trouvé ça hyper drôle. J'ai trouvé ça hyper drôle de rentrer dans un livre où, en gros, la personne se voit une sorte de porte fermée, puis reporte fermée, presque du Chaplin, quoi. Est-ce que, la deuxième fois, j'ai trouvé ça plus grave, est-ce que vous avez pu voir ça aussi? Je me suis dit, peut-être que même le mettre en exergue, en prélude de ce livre, c'est une forme de distance un peu humoristique.
C'est drôle. Moi, j'avais l'impression que c'était violent. Mais je pense que j'ai quand même l'impression que c'est effectivement pas dénué d'humour dans le processus, dans les dispositifs qui sont sans arrêt mis en place et qui effectivement sans arrêt échouent à arriver là où ils voulaient arriver.
Qui sont les vôtres, les dispositifs, voilà, les questionnaires, les appels, etc.
Je pense que je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup d'humour, malheureusement. Mais
votre insu, ça fonctionne.
Oui.
Je n'ai jamais dit à Martin à quel point il ressemble à mon père. Je pense à ça pendant que les plats arrivent sur la table et que Martin me raconte sa semaine dans l'ordre chronologique et en détail. Je fais « mm-hmm » un peu trop souvent, comme une journaliste qui surjoue son enthousiasme pendant l'entrevue. « Ta viande est bonne ? Je te resserre du vin ?» Au lieu de répondre, je scrute le visage de Martin à la recherche de morceaux de mon père. Il a les mêmes lèvres fines cachées sous une barbe drue, et quand il sourit, en haut, la même dent manquante, un trou noir qu'il promet de faire réparer dès qu'il en aura les moyens, certes, mais quand? Et qu'il explore du bout de la langue, comme s'il s'attendait à tout instant à ce que quelque chose y ait poussé. Il en est au jeudi soir. Je le couperai bien pour qu'on passe à autre chose, mais au fond, je me cherche un prétexte pour qu'on s'engueule. Il me parle du film qu'il est allé voir, seul, au cinéma, et dont le titre m'a laissé une vague impression de lassitude. Ensuite, il parle du film, tous les deux. Il est question de l'annonce d'une grossesse. Et ensuite, l'engueulade peut commencer. Une dispute qui prend la réponse de Martin comme prétexte, mais qui pourrait tout aussi bien venir du canif déplié sur la table, comme celui que mon père dépliait et posait chaque soir sur la table de la salle à manger. Ou bien du corps fluet de Martin, qui me rappelle celui que ma mère n'a osé quitter qu'au bout de 20 longues années, vieillie avant l'âge, elle qui n'avait jamais été aimée autrement que comme une mère. Je regarde Martin et ma colère grandit alors que je me projette en mère de ses enfants à lui, frêles eux aussi, aux lèvres fines et à la dentition fragile, des enfants qui ne pourront pas espérer faire mieux que nous et que nous aurons quand même quand le temps sera venu. Que Martin n'ait même pas conscience qu'un tel risque plane sur ces vies-là m'énerve encore plus que le reste. Et alors, je ne sais plus si je lui en veux pour sa mollesse ou pour la tristesse de mon père. Je lui dis qu'il se cache sans arrêt sous sa carapace et que ça me fait pitié. Au fond, je crois bien que je provoque cette dispute, un peu lamentable, parce que l'amour que m'inspire Martin, premier homme de ma vie de fille sans père, m'embarrasse. C'est peu après que le texte a commencé, Céline Huyghebert, qu'on a le récit de ce moment de dispute provoquée entre la narratrice et Martin, le récit sous le visage de Magritte, et qui nous fait entrer dans un monde où, en effet, tout sera théâtre de nos relations. Les dialogues sous forme de pièces de théâtre, y compris même cette dispute qui révèle son propre déclenchement, son propre désir de conflit. Mais c'est une dispute qui révèle autre chose, qui dit peut-être que l'origine du livre, c'est que cette femme ne pouvait plus enjamber le fantôme de son père à travers l'homme avec lequel elle vivait. Est-ce là la raison de son positionnement dans le montage dont vous parliez? Est-ce que ça nous donne cet indice-là?
C'est possible. Je pense qu'effectivement, il y a c'était important pour moi de parler dès le départ d'une forme d'héritage inconscient que nous lèguent nos parents, qui n'est pas matériel, qui est souvent lourd à supporter et qui est justement souvent de l'ordre sentimental. Et c'était important de parler de la manière dont cette narratrice est hantée par l'échec du couple, de ses parents, et la façon dont le fantôme de son père ne cesse de l'empêcher de réussir ses propres relations amoureuses. Et à partir de là, pouvait peut-être commencer la quête de la mémoire et de l'effacement du père.
Mais comme pour sa disparition, comme pour faire en sorte que le fantôme laisse de la place, il y a quelque chose qui plane dans ce livre-là et qui, peut-être malheureusement pour nous, n'est pas résolu, à savoir qui est le plus fort. Est-ce que c'est le mort ou est-ce que c'est le vivant? Vous arrêtez pas de dire, finalement, la bataille qui se livre, c'est peut-être celle-ci. Qui sont les plus forts? Est-ce que c'est le père mort ou est-ce que c'est l'homme avec lequel la narratrice vit?
Ouais, je pense qu'à un moment dans ce premier texte-là, la narratrice se fait poser la question de qui mérite le plus d'attention, ton père ou moi. Et c'est quelque chose qui est très facile à comprendre quand on est abasourdi par le deuil. Et je pense qu'il est incompréhensible pour l'extérieur. C'est qu'au moment où, en fait, j'avais déjà vu des gens mourir autour de moi, des cousins, des oncles, des tantes, des grands-parents. Mais c'est quelque chose qui, même si c'était des morts injustes parce qu'accidentelles, c'était une douleur qui pouvait se résoudre quand même rapidement. la mort de mon père, ça a perturbé quelque chose de beaucoup plus profond, plus identitaire. Ça a travaillé aussi sur la culpabilité, le sens de la vie même. C'est totalement inattendu ce que ça vient chambouler. Et donc, effectivement, on se retrouve à ne penser plus qu'à ça. Et je pense que autant la narratrice de la première nouvelle que la narratrice du récit, où là c'est vraiment un jeu, une première personne qui raconte le moment du deuil, vraiment le moment de la mort dans ce cas-là même de plus matériel, de plus physique. Je parle d'un état d'obsession qui peut peut-être même être dérangeant par moment quand je parle du désir de toucher le corps du mort, de comprendre avec les mots les plus crus possibles, en chassant tous les euphémismes qui sont utilisés normalement quand on parle d'une personne qui s'éteint ou même du mot décès. À ce moment-là de l'écriture, je suis complètement dans l'obsession. Après, je ne sais pas s'il y a résolution. Je pense que le moment du deuil est un moment obsessif.
Mais peut-être parce que une des pistes, justement, puisque vous parlez de tremblement qui est à l'œuvre dans ce texte-là, Céline Wigbert, c'est l'idée que c'est obsédant parce que c'est le truc le plus réel. On a l'impression que c'est le truc le plus réel qui lui arrive. Que autour de ça, tout peut être une pièce de théâtre, une photo, enfin je sais pas, tout peut être plus fictif, moins tangible, alors que le corps mort de son père sous un drap blanc, ça c'est pour de vrai, entre guillemets.
Ouais, c'est marrant ce que vous dites. Je me demande si justement, parce que en fait la mort c'est quelque chose qui était très réel par le passé. Les morts mouraient dans les maisons, on les veillait. Souvent, c'était un proche qui nettoyait le corps, qui l'habillait. Donc, la mort était extrêmement concrète. Puis, à partir du moment où la mort a été médicalisée, elle a été mise à distance. Et les gens se sont mis à mourir dans les hôpitaux. Donc, c'est le personnel soignant qui s'est mis à préparer le corps, qui n'était plus du tout touché par les gens, puis qui n'était même plus vu par les gens.
Qui était à peine veillé, parce qu'aujourd'hui, à l'hôpital, à la morgue, au plus, les gens y passent une heure, quoi.
Exactement, oui. Et après, la cérémonie est souvent avec un cercueil fermé, ou alors c'est des cendres, parce que c'est une crémation, donc on ne voit plus le mort. Et... ouais, je me demande si on n'est pas. En fait, oui, effectivement, vous avez raison. La mort, c'est peut-être ce moment qui, un des rares moments qui vient déranger, chambouler nos vies et qu'on ne peut pas maîtriser. Il y a plein de moments où on se dit, cet événement-là dans ma vie pourrait me faire mal, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'avoir mal, j'ai pas le temps de sortir de ma productivité ou de. Et la mort, on n'a pas le choix.
Est-ce que le deuil, c'est quelque chose à devoir surmonter? Est-ce que qu'il faut user? C'est la question. Et je pense que, en fait, en tant que. Une personne, je pense qu'il faut user parce que quand même il faut bien vivre et donc il faut bien continuer à acheminer sa propre vie. Mais je pense que en tant que écrivain ou en tant qu'artiste, c'est autre chose. Et je pense que nous avons eu, je pense que nous ce que j'ai appris après ces triples catastrophes, c'est que le bonheur n'a presque pas besoin de mots. Face à une personne qui est, vous voyez, enfin, dans le bonheur, qui est tout heureux, enfin, il n'a pas besoin de mots. Alors que la tristesse, le désespoir, la détresse,
a besoin de mots. Et nous, c'est encore une fois, c'est presque banal ce que je dis, mais c'est notre rôle de chercher les mots. Et ce n'est pas en lisant mon livre que les gens pouvaient être guéris de la tristesse. Mais non, mais je pense qu'il faut ces mots, peut-être, peuvent permettre à réfléchir et avoir et donner la force de rester dans ce non-usé.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Céline Huppert.
True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it reach you. 'Cause true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end.
On entendait la voix de Daniel Johnston, feu Daniel Johnston, et juste avant celle de Ryoko Sekiguchi, que vous citez très brièvement, Céline Huppert, dans votre livre Le drap blanc. Très brièvement, mais on sent qu'elle a une importance. Et dans cette archive-là, elle était au micro de Kathleen Evin en 2015 sur France Inter. Elle dit peut-être qu'il faut que ce ne soit pas usé. Peut-être qu'il faut en rester dans ce qu'on appelle le deuil, à la version non usée des choses. Alors d'une part, pourquoi la présence de Ryoko Sekiguchi? Et d'autre part, comment répondez-vous à sa question à elle? Est-ce que le deuil, faut-il vraiment le surmonter?
Bah, je vous remercie déjà d'avoir passé cette archive parce que c'est la première fois que j'entends sa voix.
Et elle est trop belle, sa voix.
C'est magnifique. Ah ouais. C'est une écrivaine que j'aime beaucoup et que j'ai découvert à travers son petit essai sur la voix sombre, donc sur la voix. Et où elle parlait de la voix de son grand-père qu'elle avait capturée sur le répondeur, si je me souviens bien. Et son grand-père était mort, elle ne vivant pas au Japon, elle n'avait pas pu aller à l'enterrement. Et donc elle parle de la voix des morts qui est tout ce qui reste de vivant après la mort, parce qu'en fait, les autres traces que les morts laissent, j'ai l'impression qu'on a terriblement peur de les user, justement. Les photographies, la première fois qu'on tombe sur la photographie de quelqu'un qu'on n'a pas vu, qui est mort ou qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ça nous émeut. Et puis, plus on regarde la photo et moins on ressent quelque chose. C'est terriblement terrifiant de sentir que en usant ces objets, l'émotion du souvenir est en train de disparaître. Je sais pas si il faut ou si on peut les user jusqu'au bout, parce que la mémoire est faite drôlement, ce qui fait que même quand on croit avoir tout usé, il y a des survivances, des choses qui reviennent à des moments complètement inattendus, des sortes de fantômes qui resurgissent au travers d'un timbre de voix qu'on peut entendre ou d'un événement, d'un sentiment déjà vu, d'une odeur. On a tous eu ça, l'impression de, on sent une odeur et ça nous ramène quelqu'un dans la pièce. Moi, ça m'est arrivé aussi pour mon père. Il y a après l'apparition du livre, j'ai des cousins qui m'ont écrit en me disant qu'ils avaient retrouvé des films en 16 mm de leur père dans lequel apparaissait mon père à l'âge de 16-17 ans. Donc ils les ont numérisés, ils me les ont envoyés. Et alors j'ai vu mon père à l'écran bouger, marcher avec sa démarche d'un jeune de 16-17 ans. Et en fait, ça a été terrible parce que j'avais oublié que le 16 mm n'a pas le son. Et donc, j'ai vu mon père articuler la bouche sans entendre le son de sa voix. Et au lieu de le faire revenir, ça a appuyé sur son absence. Et c'était très douloureux comme objet de souvenir.
De toute façon, on ne pourrait pas vraiment dire, ou alors c'est peut-être parce que ça fait partie des échecs, pour reprendre ce mot-là que vous prononciez tout à l'heure, on ne pourrait pas vraiment dire que l'entreprise dont témoigne votre livre vise à dépasser le deuil, ou à passer à autre chose, ou à s'éloigner de la perte et de la tristesse. Peut-être que ça vise presque à l'inverse. On a l'impression que vous essayez comme ça de composer de la présence, d'avoir des anecdotes, d'avoir des images, ou même d'en recréer qui n'auraient pas, des images de vie qui n'auraient pas eu lieu.
Ouais, je pense que y a peut-être un processus d'épuisement dans l'accumulation, mais effectivement c'est un processus d'accumulation. Donc je suis pas arrivée jusqu'à l'épuisement. J'aurais pu. En fait, c'est un livre qui aurait pu ramasser plein d'autres textes ou d'objets sans jamais arriver à une fin. Ça aurait juste proposé d'autres portraits. Ou un mouvement de retour, parce qu'il y a des répétitions aussi dans le livre qui montrent aussi ces mouvements de la mémoire, la mémoire n'est pas linéaire. On se met pas à oublier tel souvenir, puis ensuite tel autre, et puis ensuite tel autre. Les choses se font par saut, par latence. La construction du livre essaye de montrer ça aussi.
Et peut-être qu'il faudrait qu'on parle, puisqu'on entend la voix de Ryoko Sekiguchi et que vous la citez, de la place de ces citations-là. Vous le disiez tout à l'heure, on peut imaginer vos grandes tables d'atelier et puis des feuilles de papier et la manière dont d'un seul coup, une citation venant après une nouvelle ou venant après un questionnaire a une place toute singulière. D'abord, parler du corpus des textes que vous citez. Est-ce que ça a à voir, ce corpus, avec les femmes que vous avez relues au moment où vous n'étiez plus certaine de vouloir faire paraître le livre?
Oui, effectivement. En fait, quand j'ai écrit ce livre, j'ai eu l'impression que je m'accompagnais d'une petite collection d'auteurs et d'autrices, d'artistes aussi, et que ces gens-là ont participé à l'écriture du livre. Je pense que dans l'écriture, je déteste l'image de l'artiste démiurge qui écrit à partir de rien. Heureusement, il existe de moins en moins. On écrit avec et grâce aux autres, des autres qui sont nommés dans les livres avec des citations et des noms, puis des autres anonymes, les conversations qu'on peut avoir avec des amis, les artistes qui nous inspirent quand on va à une exposition, et tout ça, c'est extrêmement important dans mon processus. Donc c'était important aussi que ce soit présent dans le livre, qu'on sente cette communauté virtuelle qui a nourri mon écriture. Puis je pense aussi, toujours dans une logique de montage, quand j'intègre une citation, par exemple la citation de Ryoko Sekiguchi, j'ai l'impression que j'intègre à l'intérieur de ma propre histoire le livre entier de Ryoko Sekiguchi, sa voix, et que la phrase que j'ai choisie d'elle vient aussi contaminer mon propre livre de toute sa réflexion et de toute son écriture. Et donc ça crée une densité ou une polyphonie que je trouve très riche.
Voir parfois vous laissez aux autres le soin de dire quelque chose que vous n'écrivez pas. Moi, j'ai trouvé très très beau l'arrivée de la citation de Bertrand Bonello à partir de son travail autour de Cindy Sherman, qui parle de l'arrivée des larmes dans les œuvres d'art. Et ça arrive à un moment où vous auriez pu écrire vous des larmes. Et en fait, non, votre texte, il se suspend avant ça. Et il y a la citation de Bonello. Donc, Bonello, il vient juste pleurer à la place de vous qui aurez pu pleurer. Et peut-être même à la place de nous qui aurions pu pleurer à ce moment-là. Mais comme un vrai, comme une sculpture, en fait. Comme si le livre, il était fait de blocs. Ok, c'est pas un bloc de moi, c'est un bloc de Bonello. Il va se mettre là, il sera là pour les larmes. Ça m'évitera d'avoir à aller pleurer.
Oui, effectivement, c'est exactement ça. Ça va peut-être avec l'idée du montage que 1 plus 1 égale 3. Donc, deux choses qui sont dites et mises côte à côte vont créer un troisième texte qui n'a pas besoin d'être dit pour exister. C'est ce qui se passe dans la citation des larmes, ouais.
Quand j'étais petite, je posais des questions, mais en permanence, je harcelais les gens avec des questions. Et puis, c'était tellement fatigant que les gens ne me répondaient pas. Et là, tout d'un coup, par exemple, je fais ce projet Les Dormeurs, je reçois des inconnus dans mon lit. Et puis, je leur demande jusqu'à quel âge avez-vous fait pipi au lit. Et la personne me répond le plus simplement du monde en me donnant une date. Et voilà, j'ai une réponse. Il y a aussi beaucoup de choses que je demande aux gens, des choses... dont ils ne savent pas si ce sont des choses qui se refusent ou qui s'acceptent. Voulez-vous venir dormir dans mon lit au boulanger de la rue de l'Ambre ? Il n'a pas réfléchi à la question avant. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non, parce que si je lui demandais « venez m'aider à déménager, vous ne me connaissez pas », je pense qu'il sait qu'il dirait non. Mais là, voulez-vous dormir dans mon lit ? Et en fait, je crois que les gens disent ben, « pourquoi pas ?» et que c'est ça qui amène à dire oui.
J'ai demandé à des personnes qui n'avaient pas connu mon père de remplir un questionnaire sur lui. Une citation leur indiquait la marche à suivre. Une citation de « Évaluation psychologique » sur une idée de Damien Hirst, de Sophie Kahl. Il serait utile que vous répondiez du mieux que vous pouvez à toutes les questions, même si vous n'êtes pas absolument certain, ou si la question vous semble étrange. Enquête sur l'histoire de mon père. Profil psychologique. Pourriez-vous me dire, en quelques mots, qui était mon père ? Qu'aimiez-vous chez lui ? Quelles étaient ses qualités ? Et ses défauts ? Une anecdote ? Histoire familiale. Racontez-moi quelques moments clés dans sa vie, de sa naissance à sa mort. Comment a-t-il rencontré ma mère ? Comment s'est passée la demande en mariage ? Qu'est-il arrivé ensuite ? Histoire de sa mort. Vous rappelez-vous de quoi il est mort ? Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir ? Y a-t-il quelque chose qui aurait pu le sauver ? A-t-il eu une vie heureuse ? Enfin, histoire personnelle de l'interviewé. Qui êtes-vous ? Quel est votre lien avec mon père ? Avez-vous perdu un parent ? Comment vivez-vous avec sa mort ? Avez-vous des commentaires ? Céline Wigbert, on entendait d'abord une archive de Sophie Kahl, il y a 15 ans, en 2004, au micro de Laurent Goumard, parler de son appétit pour les questions, un appétit venu de l'enfance, ou en tout cas dont elle loge l'origine dans l'enfance, et le « pourquoi pas » qui préside, d'après elle, à la manière dont les personnes finissent par lui dire oui, parce que dans un premier temps, ils se disent « pourquoi pas ». Et juste après, la lecture d'un des dispositifs qui prend une place très importante dans votre livre Le Drap Blanc, qui est ce questionnaire-là que vous adressez à des personnes qui ont ou bien connu votre père, des sœurs, une mère par exemple, ou bien pas du tout connu, des amis récents que vous avez pourquoi pas rencontrés après sa mort. Ce sont des questionnaires que vous reproduisez, on imagine qu'ils sont vrais, mais peu importe, qui ont un impact sur nous assez puissant, surtout quand ce sont des gens qui ne l'ont pas connu. Et quand on voit la densité avec laquelle ils peuvent répondre, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé cette série de questionnaires et Comment vous l'avez vécu et pourquoi est-ce que c'est si important?
Je suis très admirative du témoignage de Sophie Kahl, pour qui ça a l'air très simple de poser des questions et d'obtenir une réponse affirmative. Pour moi, je pense que ça a été plus difficile. Mais cette partie-là, ça a été très difficile d'interroger les proches de mon père. Ça a été vraiment une démarche assez éprouvante. Par contre, la partie dont vous venez de lire les questions, ça a été un moment de pur bonheur. J'ai effectivement demandé à des gens qui ne connaissaient pas mon père, mais qui m'avaient déjà entendu parler de lui, de répondre à des questions pour construire une identité. Je trouvais que ça m'intéressait de savoir quel père pouvait exister dans la femme que j'étais aujourd'hui et quels souvenirs avaient pu survivre à une conversation et au temps qui passe. Oui, exactement. Et aussi, bien sûr, en fait, ce que je trouve extrêmement touchant dans cette partie, c'est que les gens parlent de leur propre père. Et c'est très beau. Je me sens extrêmement chanceuse d'avoir eu ces témoignages-là, parce que je pense que ça donne une densité au livre et quelque chose peut-être de plus collectif aussi dans le regard qui est posé sur le rapport au père.
Oui, parce qu'évidemment, nous, il y a un moment donné où, comme on en lit beaucoup, des questionnaires, vous en reproduisez beaucoup, on se met presque à répondre fort et forte de ce que nous venons de lire au questionnaire que vous proposez. Mais ce qui est étonnant, c'est que surtout, à la faveur de la lecture de ces questionnaires, on voit apparaître quand même un homme différent. C'est-à-dire que, finalement, chacun des questionnaires, comme bêtement l'image du kaléidoscope propose une manière de regarder quelqu'un, quoi, d'une face. Ça nous rappelle peut-être quelque chose qu'on sait très bien, qui est que, ben, selon qui nous regarde et par quel côté on est regardé, on est assez différent. Mais n'empêche que c'est comme important de le rappeler, non?
Oui, complètement. Et en même temps, on retrouve les mêmes scènes. Comme c'est un peu comme si on regardait un album photographique où on retrouve toujours les mêmes scènes de baptême, de mariage, d'anniversaire. Mais j'étais très étonnée de retrouver dans ce questionnaire-là ce qui devient des lieux communs. La rencontre se fait presque toujours dans un bal populaire. La demande en mariage se fait toujours d'une certaine façon. C'est toujours un homme qui est seul, qui s'est éloigné. Alors tantôt il est marin, tantôt il est paysan, mais il est contraint par quelque chose de s'éloigner du reste de sa famille. Donc il y a un imaginaire collectif aussi qui se retrouve.
Et qui est révélateur.
Oui.
Qui est révélateur de quelque chose. C'est pour ça que vous dites, finalement, ça épaissit le livre et ça sort à la question de votre seul père à vous.
C'est peut-être de ça dont on veut témoigner, des pères qui étaient très silencieux parce qu'on leur demandait ne pas s'exprimer, de ne pas avoir d'émotion, à moins que ce soit de la colère. Ça, c'était toléré.
Une injonction de masculinité, de virilité.
Exactement.
Aussi. C'est ça qui bouge aussi.
Donc oui, effectivement, il y a peut-être une mort de ce père-là. Oui.
Et vous disiez que c'était quelque chose de difficile et le reste des documents que vous portez à ce livre-là, Céline Wigbert, en témoigne d'interroger les personnes qui ont connu votre père. Alors, vous commencez par reproduire un dialogue fin de non-recevoir, de refus. Et puis, il y a d'autres dialogues avec d'autres choses qui se disent, mais toujours dans une assez grande tension, y compris lorsque vous proposez aux personnes de relire ce qu'ils ont dit et éventuellement de corriger. C'est quelque chose que l'écriture parvient très bien à traduire, la tension de ces entretiens. Elle dit quoi, selon vous, la tension? Elle dit que la douleur du souvenir?
Elle parle, je pense, du silence des familles. Le fait que dans les familles, même quand il n'y a aucun drame, parce que on peut penser à des scènes très romanesques de familles dans lesquelles on révèle un événement traumatique qui a été caché de génération en génération. Mais en fait, la plupart du temps, il y a des silences et des tabous qui ne cachent rien, juste du malaise, de la peur de se révéler. Et j'ai l'impression que c'est ça que révèle le texte, cette façon d'être ensemble avec les gens avec lesquels on vit le plus souvent, le plus longtemps possible, puisque avec nos parents, on vit habituellement 20 ans au moins. Un couple, ça a tendance à se raccourcir avec les années, mais à l'époque, ça pouvait être 20, 30, 40 ans avec la même personne. Et donc, oui, il y a tout un silence qui s'installe dans les habitudes aussi.
Oui, et on sent qu'il y a une habitude qui est difficile à défaire, c'est celle de se cacher. C'est-à-dire qu'on sent bien que dans les personnes que vous interviewez, qui sont bien très proches ou bien un tout petit peu plus éloignées, eh bien, on préfère ne pas se dévoiler, se dénuder, répondre à la question, comme si c'était plus confortable.
Pour mon père, ça a été... C'est quelqu'un qui a quand même mal vécu. Donc, puisqu'il a mal vécu, il a fait souffrir les gens qui étaient autour de lui. Donc poser des questions à ces gens-là, c'est aussi les amener à se souvenir de choses dont ils n'ont pas envie de se souvenir. Je pense que on a tendance à croire dans l'imaginaire collectif, sûrement à cause de la psychanalyse ou grâce à la psychanalyse, je sais pas, que forcer les gens à se souvenir, c'est bon, ça va leur permettre de guérir.
Or, parfois, il vaut mieux garder le silence sur bien des choses.
Exactement. Surtout quand le traumatisme est tellement douloureux que finalement, le corps vit mieux avec les symptômes provoqués par le refoulement qu'avec la resurgescence du souvenir en lui-même.
Est-ce que ça a participé de votre hésitation à la publication ?
Oui, complètement, parce qu'il y avait... C'est quand même, j'ai l'impression, une chose différente d'interroger les gens où on est dans un dispositif où je suis seule avec eux, même si je leur explique que je suis en train de réaliser une œuvre. Il y a un micro, il y a une caméra, donc ils sont conscients que leur parole va être diffusée, mais on oublie quand on parle à deux que d'autres personnes peuvent entendre. Et tout à coup, moi, je deviens responsable de toutes ces révélations-là. Et je deviens responsable de toutes ces confidences qu'on m'a faites. Et je veux les utiliser en étant au plus proche de la vérité. Mais je veux être bienveillante envers tout le monde. Cette bienveillance, elle peut être... Elle peut être âpre, elle peut être très dure, elle peut être très violente, mais elle ne doit pas être gratuite. En fait, la violence ne doit pas être gratuite. Donc oui, je pense que j'ai relu une cinquantaine de fois les entrevues, une fois qu'elles étaient montées, en mettant à la place de chaque personne, plusieurs fois, en me demandant si j'étais juste... avec les extraits que j'avais gardés de chacune des confidences qu'on m'avait faites.
Alors pour se détendre, on va s'inviter chez Marguerite Duras en 1990.
Il y a la recette du... mais j'ai perdu, mais je l'avais écrite, je me souviens à peu près. De la potée bretonne, avec un jambonneau et toutes sortes de légumes. Elle était assez longue, la recette. Parce que j'adore écrire des choses comme ça. Et la fin, alors qu'elle est parfaitement cuite, quand elle est parfaitement cuite, que toute la maison embaume la potée, et Dieu sait si ça sent bon, je dis qu'on n'est pas tenu de la manger du tout, qu'on n'a qu'à aller se coucher, et puis qu'à minuit, si on a faim, on peut toujours descendre, boire un verre de lait. Il y en a au frigo. Voilà. Ça m'amuse. Il y a aussi des plats qu'on doit faire quand il y a des amis qu'on aime. Et puis des plats qu'on fait avec des gens étrangers. Mais pas beaucoup, parce que les gens étrangers, je ne reçois pas beaucoup.
Et les gens étrangers, ce sont des plats malsains?
Oh. Non, empoisonnés. Des omelettes à l'arsenic. Alors, je fais à manger pour les autres. Il y avait aussi des plats de poisson. J'étais élevée au poisson. Moi, c'est pour ça que j'étais comme un squelette. Maigre, étant enfant, j'étais maigre. Oui, je fais très bien des plats de poisson. Mais il y en a, par exemple, des sèches que je sais faire à l'italienne. Je dis que c'est tellement bon que ça frôle une sorte de concept de péché, oui, de faute. Et que ça, on ne doit le faire vraiment qu'avec les plus chers des amis. Et jamais seul. Jamais, dans aucun cas, on doit faire de cuisine pour soi seul. Parce que je pense que c'est ça le chemin qui mène à l'installation définitive du désespoir. C'est-à-dire que c'est la voie physique, concrète, de l'acceptation de la solitude. De faire pour soi des pommes de terre sautées. Ou une omelette vietnamienne. C'est littéralement inconcevable. La nourriture est faite vraiment pour tout le monde.
Marguerite Duras, La Passion suspendue. Et pourtant, tout ce qui reste visible, dissible, c'est souvent le superflu, l'apparence, la surface de notre expérience. Le reste demeure à l'intérieur, obscur, fort au point de ne même plus pouvoir être évoqué. Plus les choses sont intenses, plus il leur devient difficile d'affleurer dans leur entièreté. Travailler avec la mémoire au sens classique ne m'intéresse pas. Il ne s'agit pas d'archives ou puiser des données à notre guise. L'acte même d'oublier de plus est nécessaire absolument. Si 80% de ce qui nous arrive n'était pas refoulé, vivre serait insoutenable. C'est donc sur les doubles mots, à la fois oraux et écrits, de Marguerite Duras qu'on va se quitter. Céline Wigbaert, ce sera très révélateur de la manière dont fonctionne votre livre Le Drap Blanc, publié aux éditions Le Cartanier. On peut par exemple dire que puisque vous êtes de passage à Paris, vous serez en rencontre à la librairie Le Mont en l'air ce jeudi. C'est à Paris et c'est rue Ménilmontant, puis ensuite vous reprenez la route vers Montréal ou vous allez un peu rester un peu en France?
Je suis arrivée depuis un mois en fait.
Oh, c'est l'heure de rentrer là.
Exactement.
Merci beaucoup.
Merci.
À la prise de son ce soir, c'était Philippe Mercher, à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Romain de Bec de Lièvre, Jeanne Aléos, Lucie Riandet et Marianne Chassor. C'est aussi un site internet, franceculture.fr, la page de Par les temps qui courent, des podcasts, la réécoute, tout ça via l'application Radio France. Dans un instant, 22h, le journal. So